Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous tenir compagnie dans Radio Foot International aujourd'hui sur RFI pour Radio Foot International, bien sûr, et pour vous parler donc de football et par exemple de l'arbitrage vidéo en Afrique. Pour la première fois, les finales des compétitions phares du continent seront observées par des arbitres logés, vous le savez, dans leur bus à proximité du stade, un peu comme en Europe, un peu comme à la Coupe du Monde. La VAR fait-elle école, mais règle-t-elle tous les problèmes? C'est la question que l'on pourra se poser. Cette nuit en Amérique du Sud, elle a eu une grande influence sur la qualification en finale de la Copa Libertadores. Le club argentin de River Plate, au désespoir des supporters de Porto Alegre, s'est donc qualifié. Qui en finale d'ailleurs pour rencontrer River? Boca Juniors peut-être, qui joue ce soir. Une compétition assez peu suivie en Europe, décalage horaire oblige. Mais évidemment, nous en parlerons, nous vous éclairerons grâce à Carlos Bianchi. Bonjour Carlos.
Bonjour, excusez-moi.
Carlos qui fait rire pendant qu'on est sérieux, pendant qu'on prend l'antenne. Carlos, mais surtout, vous nous aiderez parce que vous en avez remporté 4 de ces Copa Libertadores, qui sont l'équivalent d'une coupe Ligue des Champions ici. Et vous avez aussi gagné 2 fois la Coupe Intercontinentale. Ça rappellera beaucoup de souvenirs. Nous parlerons aussi du Paris Saint-Germain dans le viseur du fair play financier de l'UEFA.
Trois fois
dans le viseur. Trois fois, pardon. Excusez-moi. Oui, c'est vrai qu'il y a eu Vélez. Il n'y a pas que Boca.
Tu vois.
Alors, le Paris Saint-Germain, donc, dans le viseur du fair play financier de l'UEFA, avec un pourfendeur de choc, Javier Tebas, le président de la Liga, de passage à Paris pour souffler sur les braises. Il a parlé à nos confrères à l'ombre du Parc des Princes. Le PSG est-il mal aimé en Europe? Dominique Sévrac, vous nous aiderez à répondre à cette question, j'espère.
Bonjour Annie, c'est beaucoup plus simple pour le PSG en termes de Ligue des Champions, c'est zéro.
Ouais, c'est pas... Et Coupe Intercontinentale?
Zéro.
Zéro, bon, vous voyez, ça fait rire. Carlos, bien sûr. Nous évoquerons aussi cette équipe de France féminine à quelques mois de sa Coupe du Monde, une compétition qui se disputera dans l'Hexagone. Les bleus filles feront-elles aussi bien que les bleus garçons? Corinne Diacre est leur, Didier Deschamps à elle, et Hugo Moissonnier l'a rencontré ce matin, il nous en parlera. Nous sommes aussi dans Radio Foot aujourd'hui avec Patrick Juillard. Bonjour Patrick.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Il y a aussi Thomas de Saint-Léger. Bonjour Thomas.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et puis on a invité le chef de tout le monde, le réfé, Carlos, Alejandro Valente. Mais pour que Carlos ne soit pas tout seul en fait, parce que...
Mais si, on est 4 contre 2.
deux Argentins dans le même studio. Bonjour Alejandro.
Bonjour Annie, on pourra évoquer River Plate.
N'est-ce pas, River contre Boca, on refait un super classico dans le studio aujourd'hui.
Avec plaisir.
Radio Foot, c'est parti.
Moi, je dirais que la VAR, c'est une vérité, mais ce n'est pas la vérité absolue.
Et le but a été validé, hein. Il n'y a pas de débat autour du but.
La prochaine fois, je dirai plus rien, ça vous ira comme ça.
Non, mais en fait, la vidéo ne se demande plus. Bien sûr que les joueurs, ils essayent.
Il faut pas garder aussi là pour expliquer la règle du VAR. Ouais, et la règle du VAR, c'est pas aux joueurs de demander la vidéo.
Alors, est-ce qu'on va le revoir?
Oh, on va le revoir, vous faites pas de soucis. Évidemment.
Bien, petit problème, je crois, nos amis de la technique qui me disent.
Alors, est-ce qu'on va voir un petit peu mieux?
Il y a intervention de l'assistance vidéo pour monsieur Cunha.
Ah, on me fait signe que non.
L'assistance vidéo qui fait tant parler et se propage d'une manière assez spectaculaire dans le monde du football. La VAR ou le VAR, hein, alors c'est selon les humeurs apparemment. Nous, pour nous, en France, le VAR, c'est un département. Donc on a plutôt tendance à dire la VAR et la vidéo.
Une pièce de Molière.
Oui, aussi. A fait son apparition en Russie, donc lors de la dernière Coupe du Monde, je dirais en mondiovision. C'est-à-dire tout le monde a pu constater comment on s'en servait et quels effets elle avait. Et apparemment, eh bien, elle a elle a bien plu. Il y a eu un sondage fait par les arbitres français qui a été publié aujourd'hui qui dit que 90% des Français ont adhéré à ce mode d'arbitrage assisté. Et apparemment, eh bien, ça plaît aussi beaucoup dans le monde. En tout cas, a-t-elle résolu tous les problèmes liés à l'arbitrage ? On va y venir. En tout cas, elle s'est répandue déjà dans les championnats européens et elle est à la conquête du continent africain. Le bon élève de la FIFA, la Confédération africaine, la CAF, l'avait déjà testé hein, lors de la Supercoupe d'Afrique en février dernier, n'est-ce pas Patrick ?
Absolument.
Hein, entre le Wydad et le TP Mazembe. Elle a décidé maintenant que les finales continentales de ces compétitions phares, qui vont se dérouler bientôt, la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération, eh bien, seront sous l'œil de la VAR. Et donc, dès vendredi, en Égypte, Al Ahly recevra l'Espérance de Tunis. Alors, nous sommes en ligne avec un ancien arbitre africain, un confrère désormais, Lassana Camara. Bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous les auditeurs.
Lassana, une question pour éclairer ensuite notre débat. Vous avez été arbitre en Mauritanie et vous connaissez donc bien les terrains en Afrique. Les polémiques aussi, hein, on en parle souvent, qui tournent autour de l'arbitrage et il y en a eu ces derniers temps, tant avec des sélections qu'avec des clubs. Est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle que les finales qui sont en mode aller-retour soient sous l'œil de du VAR ou de la VAR?
De la VAR, c'est une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle. Ça permet aux arbitres de s'aider avec la nouvelle technologie. L'arbitrage vidéo permet à l'arbitre d'avoir une vision intégrale, fournit aux arbitres les meilleurs moyens pour faire respecter les lois du jeu. Parce que dès l'instant où les joueurs sachent qu'ils sont filmés sur le terrain, ça peut aider à ce joueur-là, à l'arbitre, pour que le joueur ait un comportement adéquat sur le terrain. Donc pour le football africain, c'est une valeur ajoutée.
Est-ce que les joueurs africains se comportent et les arbitres se comportent différemment des autres compétitions et des autres terrains où il n'y a pas le système de vidéo-arbitrage ?
En fait, le football africain, c'est un peu compliqué. C'est pas par rapport à l'Europe. Quand on voit un match entre Wydad de Casablanca contre TP Mazembe, ça serait un match à la folie. Là, c'est le début du Maghreb, la finale de la Ligue des Champions. Elle a eu lieu contre l'Espérance de Tunis. Ça sera âprement disputé sur le terrain. Les joueurs sont à temps. Donc, si l'arbitre peut se faire aider par la technologie, ça serait une très grande valeur ajoutée.
Justement, Lassana, on a déjà vu des scènes en Afrique d'arbitres qui sortent du terrain et qui sont encadrés par des policiers, par des militaires, peut-être plus souvent qu'on ne le voit en Europe. Est-ce que, selon vous, ça va leur apporter aussi une sérénité et une sécurité à ces arbitres qui sont sur le terrain ?
Oui, c'est clair, ça va leur donner plus de sérénité parce que la CAF a déjà fait un premier pas en payant directement les arbitres. Les arbitres ne sont plus payés par le club directement ou par les fédérations des équipes qui reçoivent. C'est la CAF qui paye directement les arbitres, donc c'est une sérénité financière. Et sur le terrain, avoir de la technologie, avoir les techniques pour voir, parce que l'arbitrage c'est humain, l'humain fait des erreurs. Avec la vidéo, ça permet à l'arbitre de se corriger, de se peaufiner. Donc je pense que c'est un bond en avant pour le football africain, parce que le football africain ne doit plus être en retard, ne doit plus être à la remorque.
Alors une dernière question, Lassana, est-ce que vous pensez que ça va se répandre ensuite, c'est-à-dire que des fédérations, parce que là on parle de la Confédération africaine qui évidemment a plus de moyens et pour l'instant on n'en est qu'au final, mais est-ce que vous pensez que ça va se répandre au moins sur toute la durée d'une Ligue des Champions ou alors certaines fédérations pour leur championnat ?
Ça serait compliqué pour les championnats dans un premier temps, ça serait compliqué. Il faut au moins 5 ans, 10 ans pour arriver au championnat. Mais la Ligue des Champions africaines, ils ont les moyens, la CAF a les moyens, la Ligue des Champions, la Coupe de la CAF, ils peuvent commencer à partir des quarts de finale, demi-finale et tout ça. Donc il ne faut pas qu'ils essayent de s'embarquer sans former les arbitres. Il faut que tous les arbitres soient formés, il faut qu'ils se marient avec ce matériel-là, ils se marient avec la vidéo. Et après, ça peut être un outil très important pour le football africain.
Oui, et ça peut être aussi une amélioration du niveau de l'arbitrage sur le continent africain. Merci beaucoup, Lassana, de votre éclairage pour ce qui est du continent africain. À bientôt.
Merci.
Merci. Patrick Juillard, est-ce que pour vous aussi c'est une amélioration, le fait déjà de cette décision assez récente et qui va être mise finalement à l'œuvre dès le week-end prochain?
Oui, je pense que ça va apporter de la sérénité. Je pense pas que ce soit une panacée, c'est-à-dire que le VAR ou la VAR, je sais pas, ne résoudra pas tout. Ça reste, de toute façon, même l'arbitre vidéo, c'est un être humain qui peut se tromper, même avec des images, hein. On peut mal les interpréter.
Vous êtes d'accord avec Michel Platini?
Non, je suis pas d'accord avec Michel Platini parce que moi je vois le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Bon, c'est une question de. Donc moi je suis pour la vidéo, mais je suis sans illusion. Je pense qu'elle ne résoudra pas tout, mais je suis pour. Elle résoudra un certain nombre d'erreurs. Donc c'est déjà mieux que rien. Donc il faut l'instituer, il faut la généraliser. Après, on voit souvent les présidents de clubs en Afrique se cacher derrière l'arbitrage pour expliquer une défaite, pour un petit peu faire de la démagogie vis-à-vis des supporters. On l'a vu récemment, on voit ce qu'a fait Al Masry là contre la AS Vita Club, c'est absolument scandaleux. C'est-à-dire que l'entraîneur de l'équipe qui demande aux joueurs de ne pas revenir parce qu'il juge que l'arbitre s'est trompé. Alors, il avait peut-être raison, mais il y avait déjà 2-0, c'était le troisième but. Son club était en train de se faire écraser par l'AS Vita Club. C'est une décision totalement disproportionnée, c'était pas une injustice flagrante. Donc, si on a de la vidéo qui permet un peu d'éviter ces extrêmes-là, c'est déjà ça de gagner. Ensuite, pour finir, et vous m'avez lancé sur Platini, je dirais ce qui se passe aujourd'hui est un cinglant démenti à ce que disait Platini contre la vidéo. Il disait la vidéo ne peut pas être universelle, ce sera la vidéo des riches, ce n'est pas le football de tout le monde. Et ben, qui met la vidéo en premier dans les compétitions de clubs? La Comebol, c'est l'Amérique du Sud, et la CAF, c'est l'Afrique.
Mmh. Avant l'Europe, effectivement.
Avant l'Europe, avant l'Asie. Donc,
Thomas Saint-Léger.
Oui, gommer des erreurs, comme disait Patrick, mais aussi éviter. On a eu un cas pas si vieux que ça, finalement, des problèmes de corruption de match. Moi, je pense, évidemment, c'était un match de sélection, mais au Afrique du Sud-Sénégal.
Ah, bah oui.
L'arbitre ghanéen, Joseph Lamte, il y a eu une enquête derrière. Il a été convaincu de manipulation de match, suspendu à vie. Le match a dû être rejoué. C'était les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Voilà, c'était assez récent. Et ça, si on l'applique aussi au match entre sélections, ce sera désormais quasiment impossible d'en arriver là, quoi.
Ça limite les fraudes grossières.
Voilà. Dominique, je citais tout à l'heure Michel Platini parce que notamment il a dit, lui, dans sa démonstration où il était contre, il disait notamment, il l'a répété hier avec nos confrères de RMC, que justement il y avait finalement deux manières, enfin, qu'il y aurait le football des riches avec tout ce système de caméras et le football des pauvres avec l'Afrique. Est-ce que vous pensez que ça peut aider à rapprocher au moins le niveau des arbitrages?
Rapprocher le niveau des arbitrages...
Je dis pas niveau de jeu encore, mais...
Il y a des mauvais arbitres en Europe aussi. Hein,
oui, oui, oui.
Non,
c'est partout. Hein.
Moi, oui.
En Amérique du Sud
moi,
aussi,
apparemment. J'aime bien l'assistance vidéo. C'est une aide que les arbitres réclament eux-mêmes, comme vous l'avez souligné. Je trouve que je suis un pro vidéo, mais je trouve que l'application n'est pas fluide. Depuis ce que je vois, par exemple, la Coupe du Monde, je trouve que ça prend beaucoup trop de temps, que parfois l'arbitre ne va pas voir lui-même les images, puis après il y va, et puis ça rajoute du temps. Parfois, on peut attendre 4 minutes avant de savoir s'il y a pénalty, pas pénalty. Voilà, donc pour l'instant, je suis un peu déçu de l'utilisation de l'usage. Et pourtant, j'étais un pro vidéo. Bon, j'espère que c'est une histoire de début et que dans 5 ans, je vous dirai plus ça, ça sera beaucoup
mais
plus
mais ça
fluide.
Peut protéger quand même les arbitres.
Je trouve que sur le terrain, les joueurs ont l'air d'avoir un comportement plus mature. Ils savent qu'il y a cette aide. Et donc, quand on leur dit, bah, c'est pas moi, c'est l'image qui le prouve, notamment lors des cartons rouges, il y en a encore eu au week-end au championnat, les joueurs, bon, bah, ils acceptent un petit peu le verdict. Après, vous n'empêcherez jamais les fous d'être fous, vous n'empêcherez jamais un stade de s'embraser, vous n'empêcherez jamais un arbitre d'être pris à partie. Ça, malheureusement, vidéo, pas vidéo, la bêtise humaine, elle est sans limite.
Thomas.
Moi, pour rebondir sur la fluidité et sur l'application dans les cas, je comprends pas pourquoi, comme en rugby, on stoppe pas le chrono au moment où l'arbitre décide d'aller voir la vidéo, parce que ensuite, bon, ça donne.
Il le rajoute après.
Oui, il le rajoute après, mais c'est un peu flou.
Thomas, dans l'absolu, vous avez raison, mais le foot n'est pas un sport américain. Le foot, c'est pas un sport avec un chrono et des sonneries comme le basket ou ces sports-là.
Le foot, c'est un sport de rythme.
Ouais, mais le foot, c'est un sport de risque.
Ce que je veux dire, c'est que le rugby, c'est un sport haché. Si vous stoppez le foot, ça va rajouter de la confusion à un sport qui est hyper qui est mondialement aimé parce qu'il est hyper simple.
Ce que je veux dire,
à part la règle du hors-jeu qui peut être rendrait... difficile à comprendre, le reste c'est hyper simple.
Non, ce que je veux dire, c'est que dans les faits, c'est stoppé puisque l'arbitre.
Oui, mais c'est très
stoppé
rapide.
Après quoi.
Sinon, il prendrait peut-être trop de temps.
Le temps additionnel, c'est un peu
alors,
flou.
Anthony,
quoi, on ne sait pas vraiment combien de temps on gagne.
Si on va vers ce que vous proposez, les arbitres vont savoir que le chrono est stoppé, ne vont pas chercher à faire vite, ils vont prendre beaucoup de temps et
voilà,
là
ça
va vraiment hacher les matchs.
Carlos, quel est votre regard vous sur ce système d'arbitrage vidéo puisque de toute façon l'Amérique du Sud aussi, alors on se souvient l'Amérique du Sud avait déjà commencé avec ce spray sur les pelouses bien avant qu'on l'impose au niveau de la FIFA, est-ce que le système de vidéo arbitrage a résolu selon vous certains problèmes?
Je sais pas s'il a résolu certains problèmes, mais la question c'est qu'on a beaucoup plus de confiance dans l'arbitre maintenant. Parce qu'avant, on ne savait jamais.
Il est aidé, c'est ça,
il est aidé. Alors, et quand tu vas voir les images, et grâce à la télévision d'abord, tout le monde les voit, l'arbitre, il sait très bien qu'il ne peut pas se tromper. Attention, hein. Même, on parle toujours de l'arbitre, mais pourquoi on ne parle pas des juges de touche? Les juges de touche sont plus importants que l'arbitre.
Ils font partie du corps arbitral,
théoriquement. Oui, mais je peux t'assurer, quand tu es sur un terrain, un juge de touche qui ne te lève pas le drapeau et il marque le but, tu ne vas pas revenir en arrière. Hein. Comprends ce que je dis?
C'est ce qui se passe maintenant. Avec la vidéo, justement, on peut.
On peut, c'est pour ça que je dis, parce que les juges de touche, il est plus important que l'arbitre aujourd'hui.
Et les cinquièmes arbitres, ceux qui sont derrière les buts, Carlos, ils sont insupportables depuis leur création, parce que Michel Platini a voulu ces cinq arbitres plutôt que l'arbitrage vidéo, et ces arbitres derrière les buts, ils prenaient pas de décision, parce qu'ils avaient peur de siffler un penalty.
Oui, c'est ça.
Ils les voyaient très bien, parce qu'ils sont derrière le but, on les voit encore mieux, et en plus, ils ont pas à courir, puisqu'ils restent statiques.
Combien de penalty te sifflent, disons la vérité, combien de penalty te sifflent sur les corners? Et sur les corners, il y a toujours des fautes.
Bien sûr. Bah, sur un corner, il y a tirage de maillot.
À chaque corner, il y a un pénalty, peut-être.
Patrick, est-ce que vous aviez vu, vous, un changement, puisqu'il y a déjà eu ce test, à grande échelle, qui était cette Super Coupe d'Afrique entre le Wydad et le TP Mazembe? Mais
c'était pas un très bon match pour savoir, puisque c'était un match très déséquilibré. Donc finalement, on n'a pas vraiment. Ouais. Il aurait fallu un match vraiment serré, disputé, où les faits de jeu et l'arbitrage font basculer le match. Là, c'était pas vraiment le cas. Donc, je pourrais pas vous répondre honnêtement pour l'instant.
On verra mieux en tout cas vendredi lors de ce match entre Al-Ahli.
On espère qu'il sera plus serré en tout cas que la finale de la Supercoupe.
Voilà. La finale entre Al-Ahli et l'Espérance de Tunis. Mais de toute façon, c'est jamais la fin des polémiques. Et Carlos, eh bien, passons à l'Amérique du Sud, puisque durant la nuit, le River Plate a décroché à Porto Alegre, sa qualification pour la finale contre le Grêmio du Brésil, qui était tenant du titre pourtant. C'était la demi-finale retour. Écoutons ce résumé de Julien Julien qui a cherché dans les commentaires tant du Brésil, d'Argentine ou même de France pour vous faire comprendre le déroulé un peu spectaculaire de ce match.
Paulo Miranda na área. Só cruzamento veio baixo, hein? Tem Leonardo por aqui!
Ai, olha a situação aqui.
Atenção para Martínez. Va River, va. 1-1 o partido. Va Gonzalo, va.
Gol! Obsessão. La Conmebol Libertadores. Es mi obsesión.
O Grêmio
Le Grêmio a été disqualifié de la Libertadores à cause de la VAR.
Voilà, ça c'est les mots de l'entraîneur, évidemment, du Grêmio.
Mixe le mieux les sons et les musiques, c'est quand même incroyable. À chaque fois, vous arrivez à nous épater.
Et qu'on essaye et qu'on picore un peu sur tous les continents. Mais c'est Radio Foot International, hein, évidemment.
La radio du monde.
Il y a que Radio Foot International. Hein.
Carlos est toujours très fidèle. En tout cas, Renato Gaúcho, l'entraîneur, vous l'avez entendu. Et il a même ajouté, en plus, même Stevie Wonder l'aurait vu, cette erreur de la vidéo. Carlos, vous qui êtes impartial,
racontez. Vous croyez ?
Vous êtes face à Alejandro qui a un petit penchant pour River, vous plus ou moins. Est-ce que la VAR est coupable selon vous de l'élimination de Grêmio cette nuit ?
Non, j'ai vu les images et Alexandre me les a montrées. Et sur le penalty, il y a penalty parce que le mec, quand l'autre il frappe, le ballon il n'est pas collé, le bras il n'est pas collé au corps. Il y a faute. Mais lui m'a montré aussi que le premier but de River, il y a main aussi. Et l'arbitre il n'a pas demandé le VAR,
la vidéo, le sambière, il faut dire, c'est plus ça.
La sole. Mais c'était incroyable. Tu vois, il y a des fois qu'on demande, il y a des fois qu'on ne demande pas. Mais je suis pour, parce que comme ça, si l'arbitre se trompe, c'est la faute au VAR.
Mais est-ce qu'on va rejouer le match si
non.
C'est la faute
au VAR. Et là, il paraît qu'il demande, non, mais ils ne vont pas rejouer le match.
En fait,
réclamation auprès de la Conmebol.
Pour bien comprendre, il faut savoir que Grêmio avait gagné à Buenos Aires 1-0, et qu'ils avaient ouvert la marque à Porto Alegre. Donc, il y avait deux buts à remonter pour River, et ça a été fait dans les 10 dernières minutes. Donc, ça a été très intense.
Ensuite, il y a eu 12 minutes d'arrêt
de jeu. Après, la réclamation des Grêmio n'a rien à voir avec la VAR. C'est parce que Marcelo Gallardo, l'entraîneur de River Plate, qui était suspendu, donc il devait suivre le match
en tribune,
est descendu à la mi-temps dans les vestiaires pour rencontrer les joueurs. Il a reconnu que c'était pas réglementaire, donc il a dit qu'il accepterait les sanctions s'il y avait des sanctions, mais qu'il avait besoin de revoir ses joueurs.
Alexandre, excuse-moi que je te coupe, mais si moi ça m'arrivait la même chose, à moi ça m'arrivait contre Palmeiras, j'avais été expulsé au match aller, et le match retour je l'ai vu dans une cabine, et j'ai descendu à la mi-temps, je parlais avec les joueurs.
Bon, alors il faut que vous écriviez à Gallardo, là, pour lui dire.
Non, mais ils sont tous au courant de ça, l'histoire de la...
Mais il n'y aura pas... Le résultat, c'est rappelé mis en cause. Gallardo s'expose éventuellement à une nouvelle suspension.
Il y a deux cas, en fait, dans lesquels un résultat peut être mis en cause et un match rejoué. C'est d'une part, s'il est avéré que l'arbitre
est corrompu,
a été acheté des histoires de paris en ligne ou autre. Et s'il y a une erreur technique de l'arbitre, c'est-à-dire par exemple que un joueur se prend deux cartons jaunes, l'arbitre le laisse finir le match au lieu de lui demander de sortir, par exemple, et que l'équipe lésée dépose une réserve dans le premier arrêt de jeu suivant l'erreur d'arbitrage. Mais à part ça, c'est pas possible de faire rejouer
un match. Il y a un troisième qui s'est arrivé les éliminatoires de la Coupe du Monde. La Bolivie, il a fait jouer un joueur. Était suspendu.
Voilà.
Et Pérou, en général,
là, c'est des défaites sur tapis vert, matchs à rejouer.
Ouais, c'est pas rejoué. Mais c'était une faute grave.
Si Thierry Henry contrôle de la main, on rejoue pas le match non plus.
Absolument. Mais ça, il y a des milliers de cas dans l'histoire du foot, d'erreurs d'arbitrage non corrigées, des compétitions qui basculent là-dessus.
D'où la VAR.
Alors, abandonnons un peu la VAR pour parler de cette Copa Libertadores, puisque nous avons quelqu'un qui l'a gagné si souvent dans notre studio. Carlos, quelle est la valeur de cette compétition ? Le problème en France, on la regarde peut-être moins qu'on ne regarderait d'autres compétitions. C'est un peu comme la MLS aux États-Unis à cause des décalages horaires qui font que c'est très compliqué à voir. Je crois que c'était cette nuit à 2h45 ou quelque chose comme
c'est
ça.
C'est un petit peu comme la Champions, on la regardait pas là-bas en Amérique.
Ah bon?
Parce que c'est à 3h de l'après-midi, à 4h de l'après-midi.
Elle est très très suivie, surtout
maintenant.
Oui, mais
parce qu'ils travaillent pas, les gens. Si tu travailles à 4h, à 5h, tu regardes pas un match de foot. Comment tu fais pour regarder un match de foot si tu travailles?
On met la télé au bureau. Il y a des télés partout.
Ah oui,
c'est facile.
Le taxi, le bus et le train.
Moi, c'est pour ça que je suis journaliste sportif. C'est parce que maintenant, je suis payé pour regarder des matchs, d'habitude, je faisais gratuitement.
Alors, Carlos, quel est le niveau de cette compétition continentale qu'est la Copa Libertadores, qui, pendant longtemps, on se souvient de ce vainqueur qui, justement, allait disputer au Japon cette Coupe intercontinentale et qui, à l'époque, j'ai l'impression qu'elle était plus suivie et regardée, cette Coupe Intercontinentale, que le Mondial des clubs désormais. Mais racontez-nous, vous, comment vous le voyez, justement, ce niveau par rapport à celui de l'Europe ou...
Si on veut parler des niveaux, c'est sûr qu'il n'est pas le niveau d'Europe. Mais attention, que toute l'équipe européenne, ils sont des Sud-Américains qui sont joués la Champions. Toutes les équipes européennes qui jouent la Champions, ils sont ou en Brésilien, en Argentin, en Uruguayen. Ils sont des joueurs qui sont joués la Copa Libertadores.
Oui, bien sûr.
Ils vont les chercher là-bas. Les... Attention qu'il y a plus de Brésiliens.
Ça leur permet de s'exposer, c'est ça?
Et c'est parce que ça montre un niveau que c'est pas facile à jouer. Là-bas, c'est là-bas les matchs, c'est à cara de perro, comme
c'est
on dit.
C'est la vie ou la mort. Quoi.
C'est la vie ou la mort. C'est ça. Vous vous imaginez pas. Si aujourd'hui Boca il est qualifié, je peux vous assurer, en Argentine on est 44 millions et 40% des supporters sont de Boca, 30% de River,
70%. 40 aussi.
Non. et alors, il y a 70% du pays qui ne vont pas vivre jusqu'à jouer le deuxième match. C'est la folie. Et il y a des gens qui ne sortent pas à la rue quand ils perdent un match. Ce n'est pas comme ici en Europe, qu'un match perdu, Real Madrid, les Madridiens, les Espagnols, ils ne se cassent pas trop la tête, qu'ils ont pris 5 contre Barcelone. Sauf le président, mais après les autres.
Et l'entraîneur.
Lopetegui sort, mais du club, quoi.
Carlo, Alejandro, cette Copa Libertadores, quelle est son importance ou son niveau, alors, par rapport au continent?
Disons qu'elle a une histoire aussi longue que la Ligue des Champions ou la Coupe
d'Europe.
Elle
passionne, de toute façon, comme le dit Carlos, les populations.
C'est une énorme passion. Après, c'est vrai que les meilleurs joueurs sont en Europe. Ça, il ne faut pas se cacher. Mais en revanche, il y a une intensité et une folie autour de ces matchs qui les rend tout à fait passionnants malgré le fait que la qualité soit moindre. Vous savez, l'équipe des River, vous savez, des joueurs comme Ponzio qui ont 35-36 ans.
Et qui sont joués en Espagne, à Saragosse,
tout ça. Ou des joueurs, ou des gamins comme Petit Martinez qui a marqué le but, qui a 22 ans. C'est très contrasté. Quoi.
Mm-hmm. Tu sais, quand tu joues un match à l'extérieur, je vais te le raconter,
voilà,
qui sont des
c'était
choses.
C'était ma
qui...
question.
Si tu as vécu au Brésil, et nous avons été très souvent au Brésil, ils te jouent de la musique
toute
la nuit. Tu n'arrives pas à prendre le sommeil. Ils te mettent des bombes devant la porte de l'hôtel.
Non, c'est des pétards, des gros pétards.
Des pétards, c'est des pétards ici, là-bas, ce sont des bombes. Et alors, je peux t'assurer que quand tu vas jouer un match à l'extérieur, c'est vraiment un match à l'extérieur.
Et puis alors là, vous parlez du Brésil qui est quand même
parce
au niveau de la mer.
Parce que c'est l'Argentine-Brésil, disons, c'est le...
Oui, vous parlez du Brésil au niveau de la mer. Je me souviens d'un match Fluminense quand il jouait contre un club d'Équateur. Là il y a en plus ces problèmes énormes. On parle souvent des différences en Afrique. Mais là, vous vous retrouvez dans les Andes à 2000 mètres d'altitude. Et ça change aussi.
À Quito. Tu sais qu'est-ce qu'on faisait, nous, pour aller jouer à Quito?
Vous arriviez semaine avant.
Non, oui. Mais on prenait l'avion. Non, on arrivait à Guayaquil. On prenait l'avion de Buenos Aires à Guayaquil. On restait à Guayaquil.
C'est très bas.
Et 3 heures avant le match,
vous montez.
On prenait un petit avion qui avait l'essence pour décoller. Parce qu'en altitude, tu ne peux pas décoller. Et on faisait 1 heure jusqu'à Quito. On jouait le match, on mettait le plan encore pour revenir à Guayaquil. On n'avait pas le droit d'aller à Quito, à Buenos Aires. Mm-hmm. Parce que tu peux pas, l'avion il décolle pas.
Quito est une capitale en plus de 2000 mètres d'altitude.
Ce sont des choses qu'ici, quand on parle, d'aller à Rome, à Madrid, c'est 1h30. De Londres à Paris, c'est 1 demi-heure. Là-bas, c'est 8h, 10h, 12h de vol.
Dominique, dernière question.
Le lien avec l'Europe, Annie, il est surtout pour les recruteurs. C'est une coupe qui est très, une compétition qui est très regardée, soit physiquement sur place, soit à la télévision, par les scouts qui cherchent les prochaines pépites. Et souvent, elles se révèlent là. Ces joueurs qui sont pas encore très très chers et qui vont pouvoir, selon eux, s'exporter, se révéler sur le marché européen.
Oui.
Parfois Thomas. Même, les scouts arrivent avant que ces joueurs se révèlent. Il y a des joueurs qui ont quasiment joué aucun match pro avec River ou Boca. Je crois que c'est le cas de Manama. J'en parlais tout à l'heure avec Alejandro.
Oui, c'était le cas de Manama, effectivement, quand il est parti.
C'est lui qui joue à la Juventus. À la Juventus, Bentancur.
Dybala.
Bentancur. Le milieu de terrain. Moi, je le fais jouer en deuxième division, en réserve, en Argentine. Je suis parti. Il a joué 2 matchs, 3 matchs. Ils l'ont transféré à la Juventus. Et aujourd'hui, il est titulaire. Quand tu vois, c'est un mec qui ne savait rien montrer. Mais les gens qui voient l'avenir, qui sont préparés, parce que tout le monde ne voit pas l'avenir d'un joueur. Hein. Mais attention.
Leur capacité et leurs possibilités. Bon, on y reviendra de toute façon à cette Copa Libertadores.
Mais c'est extraordinaire. Je peux t'assurer que c'est beau. Et tu m'as vu pas mal de fois.
Tu nous emmènes?
Ah ouais, si tu veux, il n'y a qu'un problème. Radio France Internationale est capable de tout.
Changeons de sujet. Merci Alejandro Valente. Il y a Hugo Moissonnier qui va faire son entrée dans les débats. Merci. Qu'est-ce que c'est vous qui chantez devant votre vidéo?
C'est à peu près ce niveau-là, en tout cas.
Votre petite caméra.
Sous ma douche, c'est à peu près ce niveau-là.
C'est David Finzel qui chante.
Oui, ça serait possible. Le Paris Saint-Germain est-il le mal-aimé du football européen? Depuis que la capitale est donc passée sous pavillon qatarien, il y a des critiques, il y a des petites ironies. On entend parfois le KSG, n'est-ce pas, le Qatar Saint-Germain. Alors, c'est sûr que c'est pas facile de s'inviter à la table des grandes d'Europe, surtout lorsque, eh bien, on est vu comme un nouveau riche. Depuis plusieurs saisons, le PSG essaye, en tout cas, de bousculer la hiérarchie. Pour l'instant, sur le plan financier, pas encore sur le plan sportif, n'est-ce pas? On en parle assez souvent, et on sait que le transfert de Neymar a beaucoup déplu. D'ailleurs, l'homme qui a pris la tête de cette croisade s'appelle Javier Tebas. Il était de passage à Paris pour un forum sport et innovation pour essayer de voir l'avenir du sport, justement, et notamment du foot. Et à l'ombre du Parc des Princes, ça, c'est assez amusant, il était à Boulogne-Billancourt, il a parlé à nos confrères, alors de l'AFP, du Parisien, de votre journal et de l'équipe, en expliquant qu'il n'est que porte-parole d'une colère plus grande.
Ce n'est pas Javier Tebas qui l'a dénoncé, c'est la Liga, en août 2017. Nous considérons que le club ne remplit pas les critères du fair-play financier de l'UEFA. Il surévalue ses sponsors. Cela concerne aussi Manchester City, que l'on a poursuivi comme n'importe quel club qui essaierait de passer outre le fair-play financier en s'aidant de sponsors qui ne sont pas réels et qui mettraient en danger la stabilité du football européen. Tout cela a provoqué une inflation du marché. C'est une donnée objective. Car les grands clubs ont besoin d'argent pour pouvoir faire face au phénomène des clubs États. Mon opinion est qu'un club qui a triché ne devrait pas disputer de Coupe d'Europe. Mais c'est à l'UEFA de décider.
Thomas, il n'y a pas que Javier Tebas, effectivement, qui émet des critiques publiques au Paris Saint-Germain.
Oui, et d'ailleurs,
à ses moyens financiers.
Pas simplement sur cette problématique du fair play financier. Il y a donc Tebas, différents acteurs du foot mondial, Rummenigge, il y a un an, au moment du double affrontement entre le Bayern et le PSG, donc Rummenigge, président du Bayern Munich, qui avait critiqué le Paris Saint-Germain à ce moment-là. En gros, des consultants aussi, en gros, ils décrivent un club un peu surcoté, un club construit sur pas grand-chose. Et ce qui est plus inquiétant, enfin ça c'est plus personnel, mais je trouve qu'il y a même dans l'attitude de certains joueurs qui sont arrivés dans ce club, en tout cas au début, je dirais pas un manque de respect, mais quelque chose comme...
Je sais de qui vous parlez.
Non, ben enfin, Thiago Silva qui jouait avec des crampons, encore ces crampons du Milan AC, Cavani et Lavezzi et compagnie qui rentrent en retard de vacances.
Ibra qui dit, il n'y a pas d'histoire depuis avant mon arrivée.
Évidemment, la déclaration d'Ibrahimovic, on n'a pas l'impression que ces joueurs-là intègrent une institution, ils intègrent un club et c'est différent.
Mais ça, c'est une question de discipline. Attention, tu es en train de dire que c'est un problème de discipline. C'est l'entraîneur qui commande, hein.
Oui, mais
si je le permets à Neymar qui aille jeudi voir un ami à lui quand tu prépares un match contre Naples 5 jours plus tard et tu le laisses, il ne vient pas à l'entraînement jeudi, vendredi, samedi, c'est qui dirige?
Oui, mais on a l'impression qu'il y a l'institution, ouais. Effectivement, qui est peut-être pas encore, le PSG n'est peut-être pas encore une institution.
C'est l'entraîneur qui dirige.
Dominique, est-ce que le PSG triche, comme dit notamment Javier Tebas, ou est-ce qu'il fait des jaloux en fait?
Les deux. Bah, alors non, tricher c'est un mot qui est insupportable parce que il induit quelque chose de l'ordre du dopage financier, de malhonnête. Il y a pas voilà le modèle du Paris Saint-Germain, le modèle économique du Paris Saint-Germain ne semble pas le bon pour moi. Hein, donc c'est pour ça que je vous dis il me semble parce que je pense que se construire avec un sponsoring qui est uniquement des parties liées, c'est-à-dire le QNB, la Banque du Qatar, QTA, le Office du Tourisme du Qatar, Redou, une marque qatarienne.
Oui, tous les sponsors Bing sont Sport, liés au Qatar.
Voilà, et donc ça, c'est, l'UEFA, via le fair play financier, ne l'admet pas. Mais en même temps, le Paris Saint-Germain, pour devenir un grand club très vite, parce qu'ils n'avaient pas le temps en rachetant le Paris Saint-Germain en 2011...
Faut faire avant 2022, c'est ça.
Ils n'avaient pas vraiment le temps... d'attendre que la billetterie augmente, que le stade s'agrandisse, si c'est toujours pas agrandi depuis qu'il est là. Ils ont bien augmenté les prix des billets, mais c'est normal, vous avez Zlatan sur le terrain, Neymar, Mbappé, le prix des places n'est pas le même que quand vous avez Ouaro, Erding et Edouard Cissé. Donc voilà, ils n'avaient pas non plus énormément le choix, compte tenu du bassin de population, du stade, des sponsors existants et du modèle économique qu'ils ont récupéré. Mais en revanche, s'ils ont pas eu le choix, maintenant il faut qu'ils changent de modèle. C'est-à-dire que maintenant, je pense qu'en 2018, ce n'est plus supportable, de même que quand le Bayern de Munich était globalement équipé par Adidas, marque allemande, avec sûrement un équipementier qui surpayait le droit de se mettre sur le maillot du Bayern pour faire plaisir au club allemand. Je pense qu'aujourd'hui, en 2018, ces pratiques-là ne sont plus tolérées et qu'il faut désormais inventer un nouveau modèle. C'est tout le défi des Qatariens. Après, juste pour finir, sur la fin, M. Tebas, il n'est pas légitime. M. Quillot, M. Thirier, ils vont pas se mêler des affaires espagnoles. M. Tebas ne connaît pas les contrats du Paris Saint-Germain, il n'a pas accès. C'est l'UEFA, c'est le fair play financier, c'est très réglementé. Il n'est pas légitime, il a le droit de parler, il a le droit d'avoir un avis, mais il n'est pas légitime pour dire le droit, pour dire il triche, pour dire tout ça. Donc sur la forme, je pense qu'il décrédibilise le combat de ceux qui n'aiment pas le modèle du Paris Saint-Germain.
Est-ce que le modèle du Paris Saint-Germain alors doit changer sous finalement la menace de l'UEFA qui se veut un peu le gendarme en faisant ce fair-play financier, Patrick ?
La difficulté pour moi, c'est qu'en Europe, selon les pays dont on parle, la législation diffère, c'est-à-dire que dans certains pays, il est interdit à un État de posséder un club. En Allemagne, par exemple, il est impossible que le Qatar rachète un club allemand, c'est interdit par la loi allemande. En France, c'est pas le cas. En Angleterre non plus. Donc il y a des distorsions.
Oui, d'ailleurs Manchester City est visé aussi.
Dans tous les pays.
Il y a des distorsions. Et l'Espagne, il faut se rappeler qu'en il y a quelques années, certains clubs espagnols avaient été condamnés à rembourser des aides d'État indûment touchées précédemment à l'époque de la crise économique. Donc on plaisante pas avec ça en Espagne non plus. Et c'est aussi pour ça que Tebas, je pense, est assez pointilleux là-dessus. Outre le fait que il faut savoir que c'est un supporter acharné du Real Madrid. Donc bon. Il est pas totalement neutre dans cette histoire, hein. Bon, je lui reproche pas d'être supporter, mais il faut pas tout mélanger quand on est dirigeant.
C'est pourquoi il se n'occupe pas des contrats des joueurs qu'il y a en Espagne, qui est l'image, qui met tout ça. Pourquoi il se n'occupe pas de ça? Parce que ça l'intéresse pas.
Et d'ailleurs,
ont été condamnés pour transfert de mineurs.
Pour ça.
On l'a pas entendu.
Et attention, il y a une équipe.
Oui, c'est ce que je veux dire, l'indignation et la géométrie variable.
Dimanche, il y a une équipe en Espagne, que c'est le frère de Guardiola, qui le dirige.
Gérone.
Et alors ? Il dit rien ?
Ouais.
L'argent de où elle vient ? De Manchester City.
Bien sûr.
Et alors ?
C'est comme une filiale, en fait.
Et c'est le championnat, Annie, qui vient de perdre en un an Neymar et Cristiano Ronaldo. Et donc, je pense qu'économiquement, la Liga a peur pour son avenir économique, pour ses sponsors, pour sa viabilité, en se disant, attendez, je vais pas, peut-être que le championnat de France, ils ont vu que Mediapro, une boîte espagnole, a acheté les droits, les prochains droits à partir de 2020 pour 1,5 milliard d'euros. Ils se disent, attention, on est en Europe, il y a une concurrence. Si la France se met à avoir Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, tous ces joueurs-là, je dois montrer les muscles. C'est ce qu'il fait,
Hugo.
À mon avis, de manière vulgaire.
Oui, je rebondis sur l'argument de la fiscalité et des règlements qui diffèrent selon les pays. Il y a, dans mes souvenirs, il y a eu une loi Beckham, qu'on a appelée comme ça en Espagne, qui visait justement à alléger la fiscalité quand vous faisiez venir de grands joueurs. La loi Beckham, nommée d'après le transfert au Real Madrid de David Beckham. Le dérèglement du marché des transferts, en tout cas les montants faramineux qu'on voit aujourd'hui, ils viennent aussi des transferts faramineux réalisés par Florentino Pérez au début des années 2000. Et puis, l'argument du fair play financier, il a un peu bon dos. Le fair play financier est en place depuis quelques années seulement. A-t-on l'assurance que les modèles du Barça et du Real, qui étaient donc déjà des puissances dominantes établies au moment de la mise en place du fair play financier, a-t-on la certitude que ces modèles étaient aussi vertueux que le prétend Javier Tebas ?
Exactement. Et d'ailleurs, vous parlez de conditions fiscales. L'Italie aussi vient de changer certaines de ses conditions fiscales, de son cadre de fiscalité, pour notamment pouvoir accueillir quelqu'un comme Cristiano Ronaldo. Donc, on se retrouve finalement avec les problèmes de l'Europe. Mais alors, Dominique, mal aimé ou pas ?
Oui, mal aimé.
Vous chanteriez la chanson
Jaloux. Oui, jaloux. Et je trouve, alors j'ai pas envie d'ouvrir un débat qui a quelques sous-entendus parfois, ou raciste ou islamophobe. Parce que c'est un club détenu par un émirat musulman, le Qatar.
Bon. Je pense qu'on y reviendra parce que si le fair play financier se mêlait de... Parce que c'est la question qui est posée à Javier Tebas qui lui demande carrément que l'équipe ne puisse plus compétir en Ligue des Champions. Exactement. Ça, c'est vrai que c'est l'UEFA et on attendra qu'elle réponde. Autre sujet. Avec une femme à l'honneur dans Radio Foot International, enfin une fille et ses filles, puisque les Bleus, avec un E, ES, sont en pleine préparation de la Coupe du Monde qui va se jouer en France au mois de juin prochain. Corinne Diacre prépare son groupe, c'est la sélectionneuse qui jouera la semaine prochaine en amicale à Nice contre le Brésil. Donc, marchera-t-elle dans les pas de Didier Deschamps ? Alors, Corinne Diacre, Hugo Moissonnier ce matin, au siège de la Fédération Française de Football, elle qui fut joueuse de l'équipe de France, eh bien, elle a évoqué ses sujets. Et vous y étiez ?
Elle a évoqué ses sujets, mais... Vous dites ancienne joueuse, sélectionneuse, pourquoi pas? Elle n'a pas été que ça, Corinne Diacre. Revenir un petit peu en arrière.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Parc des Princes. L'événement du mois, c'était le match contre la Chine, parce que les Chinoises sont vice-championnes du monde. Les Chinoises ont été battues en finale lors de la dernière Coupe du Monde au tir au but par les États-Unis. Notre match a eu lieu à Orléans, il y avait environ 4000 personnes, et c'était notre dernier match de préparation avant les rencontres décisives de qualification pour l'Euro 2001.
Je vous propose un slogan exactement pour terminer cette émission. Sans Corinne Diacre, pas d'Annie Gasnier. C'est une pionnière. Il y a un peu moins de 20 ans, elle faisait partie des rares femmes présentes dans les médias pour parler ballon rond, un sujet qu'elle connaissait puisqu'elle était à l'époque capitaine de l'équipe de France. Je dis à l'époque, elle était également chroniqueuse dans l'émission Téléfoot, hein, l'émission phare de nos confrères de TF1.
Mais où il y avait Marianne Mako aussi à l'époque.
Oui, voilà, exactement, qui a été pionnière aussi cette émission. On va pas se méprendre sur le personnage, les médias et la présence médiatique, c'est pas quelque chose qui l'enchante. Corinne Diacre, elle est née il y a 44 ans dans le Nord et comme les gens du Nord, elle est plutôt de nature humble et discrète, ce qui ne l'empêche pas, quand elle fait face à la presse, en conférence de presse, de s'exprimer avec clarté. Elle sait où elle va avec son équipe, c'est ce qu'elle a assuré tout à l'heure au siège de la Fédération Française de Football. Et si j'étais à la place de ces joueuses, j'aurais plutôt tendance à la suivre les yeux fermés. Corinne Diacre, elle sait mener sa barque, même si parfois il lui a fallu un peu de réussite pour arriver à bon port, puisqu'elle n'était pas censée, on le rappelle, être la première femme à entraîner un club professionnel en France, puisqu'elle était, 2014, c'était une Portugaise, Helena Costa, qui avait été nommée à la tête de Clermont Foot, club de Ligue 2. Elle avait jeté l'éponge assez rapidement pour des raisons mystérieuses. Et donc, Corinne Diacre avait pris le relais. Ce statut de pionnière, elle qui est également la première femme titulaire du diplôme d'entraîneur professionnel en France, ce statut de pionnière, il ne l'intéresse pas vraiment. Elle veut être jugée comme un homme normal, entre guillemets, comme un entraîneur normal, c'est-à-dire sur ses résultats, des résultats
elle
plutôt bons.
Elle a failli faire monter le Clermont Foot Ligue 1.
Failli faire monter...
Il y a eu un moment où ça a été très proche.
Il y a eu une saison où elle a terminé à la 7e place, c'est pas mal. Le reste, deux fois au 12e rang, c'est pas mal non plus. Clermont, c'est clairement pas un favori pour la montée quand débute une saison de Ligue 2. Désormais, elle est à la tête de l'équipe de France depuis la fin du mois d'août 2017. Et là, de nouveau, elle va tenter de réussir ce que personne n'a réussi avant elle, à savoir mener la France sur le toit du monde. Ce sera à suivre cet été en France. Ce sera une Coupe du Monde à domicile. Son bilan, pour l'instant, 10 victoires, 3 nuls, 2 défaites. La dernière victoire, c'était face au Cameroun.
Alors, met-elle ses pas dans ceux de Didier Deschamps? Le suit-elle dans cette réussite, on va dire? Ça sera en plus à domicile, la pression sera énorme. Lui demande-t-elle des conseils? Vous lui avez posé la question.
Oui, bien sûr, on échange avec Didier. Après, vous savez, il a ses occupations, lui, donc on ne s'appelle pas tous les jours non plus, parce que le pauvre, sinon, si je le bombardais de questions, il ne pourrait plus me voir en peinture. Donc je souhaite garder quand même une bonne amitié entre lui et moi. Mais bien évidemment que je l'ai eu il n'y a pas très longtemps au téléphone. On échange beaucoup. Maintenant, il faut aussi que je fasse avec mes idées, mais dès que j'ai une interrogation, c'est évident que la première personne que j'appelle, c'est lui, oui.
Corinne Diacre, est-ce que elle peut être dans les pas de Didier Deschamps, Dominique, c'est-à-dire disputer une... La France n'a fait son meilleur résultat, c'est quart de finale de Coupe du Monde en 2015 au Canada. Et là, évidemment, en jouant à domicile avec quand même un foot féminin très fort, on pense au club de Lyon qui gagne cette Ligue des Champions féminines.
Tout d'abord, question de sémantique, on a parlé du VAR et de la VAR. Vous, vous dites quoi, sélectionneuse?
Alors,
vous dites quoi, vous? Hugo et Annie, vous dites quoi?
Pour raconter un peu les coulisses, la personne qui s'occupe des relations presse à la Fédération Française de Football a introduit Corinne Diacre en tant que sélectionneur. Tout à l'heure, sur le site internet de la Fédération Française de Football, il est indiqué sélectionneur, il me semble avec un E à la fin. D'accord. Mais là, pour dévoiler d'autres coulisses, à RFI, il y a eu des débats en interne récemment pour savoir s'il ne fallait pas mieux dire sélectionneuse. Disons que si la Fédération Française de Football dit sélectionneur, c'est peut-être que Corinne Diacre a été consultée sur le sujet, et donc peut-être qu'elle préfère qu'on dise entraîneur.
Mais votre choix à vous, Hugo.
Écoutez, on dit pas auteuse de roman. Si le français permet de dire sélectionneur, pourquoi pas sélectionneur?
Et on dit surtout pas entraîneuse, pour les raisons que vous devinez.
Attention, voilà.
Alors Dominique, sinon, allez, Corinne Diacre.
Elle est très compétente, mais rappelez-vous, être sur les pas d'Didier Deschamps en France, attention, parce que c'est aller en finale et la perdre. Donc, parce que la dernière fois qu'en France, on a fait une compétition.
Enfin, 98, il a gagné, mais c'est vrai qu'il n'était pas sélectionneur.
Il n'était pas sélectionneur, même s'il était un petit peu, mais Jacques aimerait pas qu'on dise ça, mais il l'était un petit peu quand même. je trouve qu'elle a du charisme, ses équipes jouent plutôt bien. Alors après, son équipe joue plutôt bien et elle se fonde aussi vous l'avez dit, sur les clubs comme Lyon où il y a une tradition du beau jeu. Là, elle a pris une jeune attaquante du PSG assez prometteuse.
Marie-Antoinette Katoto.
Voilà. Donc, je pense qu'il y a matière à réussir un super coup en France, et vous savez que ça fait des bonnes audiences, le football féminin à la télé, au-delà du million. Donc c'est colossal. Et ça peut carrément, je dis pas que le pays passe au foot féminin, mais
susciter des passions.
Ça peut conforter la France dans l'idée de suivre et d'aimer ce football qui, pour nous, est un peu nouveau, parce qu'il y a encore 15 ans, moi j'allais voir des matchs de foot féminin à Dijon, on était 7 dans le stade, quoi.
Patrick,
excusez-moi, je te coupe 30 secondes.
Non, allez-y.
Quand je suis arrivé en 73, vous savez qui était champion de France?
Reims.
Le stade de Reims, des femmes.
Ah oui.
Il y avait 8 joueurs du stade de Reims féminine qui jouait la sélection de France. Ils avaient une très bonne équipe. Ils avaient été 4-5 fois d'affilée comme entraîneur. Et l'avant-centre, c'est une Irlandaise qui était très forte, qui on lui donnait un travail dans une galerie. Et alors, elle jouait que football. Mm-hmm. En avant-centre. 73, te parle. Hein.
Oui, parce que
ça fait 45 ans. Hein.
Je crois que Barcelone, ça fait 2-3 ans qu'il y a une équipe féminine. Ça veut dire si Reims était novateur.
Le stade de Reims, il avait 8 joueurs. Et c'est l'intérieur, tu sais qui c'était? Pierre Geoffroy. C'était le directeur des sports du journal L'Union.
Patrick, pour terminer sur ces équipes féminines, avec ce leader quand même charismatique qui est Corinne Diacre.
Je pense que c'est bien, et là il y a des similitudes avec Didier Deschamps. Elle vient d'appeler, donc comme l'a dit Dominique, cette jeune attaquante du PSG, Marie-Antoinette Katoto, qui est actuellement meilleure buteuse du championnat de France à égalité avec
c'est pas grave. Allons-y.
Buteur, si vous préférez, du championnat de France à égalité avec l'intouchable Eva Egerberg, la Norvégienne de l'OL. Et c'est assez prometteur. Il y a des similitudes. Il y a des vieilles de la vieille dans cette liste, avec des joueuses comme Gaëtane Tiné ou Sarah Boidi dans les buts inamovibles.
Et même puis elle, ancienne capitaine.
Elle donc... aussi. Donc il y a quelque chose de bon. C'est à domicile. Ça a souvent bien réussi aux équipes de France en général de recevoir.
Beaucoup.
Malheureusement, à titre personnel, je regrette que ce soit en grande partie pendant la CAN, et donc je n'en verrai sans doute pas grand chose.
Oui. Okay, on va t'envoyer les images.
Voilà. Je pourrais suivre ça sur RFI.
Exactement. Merci beaucoup d'avoir participé à ce Radio Foot International que vous aimez bien. Donc Carlos,
notre
tout le monde aime.
Sélectionneuse à nous, vous êtes notre sélectionneuse.
Il y a tout un vocabulaire à inventer. Hein. Là, on s'en est aperçu. Merci à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission, et à la réalisation, il y avait Julien.